Alexandra Richard.
Nemo est le grand vainqueur des Swiss Music Awards. C'était ce soir à Zurich. L'artiste biennois a décroché le trophée d'artiste de l'année et celui de meilleur titre pour The Code. Un homme est porté disparu à Blatten. C'est un habitant de la région, âgé de 64 ans, qui, selon la police valaisanne, se trouvait sur place au moment de l'effondrement du glacier du Birch vers 15h30 aujourd'hui. Trois sauveteurs ont été déposés en hélicoptère pour tenter de le retrouver. Un drone équipé d'une caméra thermique tourne également pour détecter la chaleur du corps. Mais les conditions météo étaient mauvaises aujourd'hui. Elles doivent s'améliorer demain. Une cellule de soutien a été mise en place pour venir en aide à la population qui a pu se rendre compte de l'ampleur des destructions. De nombreuses habitations ont été détruites par l'amas de glace et de rochers qui a dévalé la montagne. Au Portugal, l'extrême droite est officiellement devenue la deuxième force politique du pays. Le parti Chega devance le parti socialiste après avoir obtenu 23% des voix et 60 sièges aux législatives anticipées du 18 mai, selon les résultats définitifs publiés ce soir. Un entrepôt du Programme alimentaire mondial a été pillé dans le centre de la bande de Gaza. Des milliers de gens affamés se sont jetés sur les sacs de nourriture, palettes de bois, madriers. Le programme de l'ONU appelle à un accès humanitaire sûr et sans entrave pour permettre immédiatement des distributions alimentaires en bon ordre dans la bande de Gaza. Ce nouveau naufrage sur les eaux de la migration, 4 femmes adultes et 3 mineurs sont mortes noyées sous les yeux des services de secours aujourd'hui dans un port des îles Canaries. Leur embarcation qui transportait près de 160 migrants et migrantes s'est renversée en arrivant à quai. L'influenceur masculiniste Andrew Tate et son frère ont été inculpés pour viol, trafic d'êtres humains et coups et blessures au Royaume-Uni. La procédure a été lancée en janvier 2024. Le bureau du procureur l'annonce ce mercredi. Pas de sacre pour Ricardo Rodriguez en football. À Wroclaw, le Zurichois et le Betis Séville sont tombés devant Chelsea lors de la finale de la Conference League. Les Andalous se sont inclinés 4 à 1 après avoir pourtant ouvert le score à la 9e minute. Un mot de météo encore, la pluie pour une partie de la nuit encore. Demain s'annonce bien ensoleillé, quelques nuages pourraient s'attarder tout au nord de la Suisse et aussi en direction de la Suisse alémanique. Il fera 12 degrés au petit matin jusqu'à 23 dans la journée. Vendredi, grand soleil, les températures grimpent, 28 degrés, 30 en Valais et dans l'ouest lémanique. Pareil samedi, un beau ciel bleu avant le retour des nuages dimanche et des averses, parfois orageuses, surtout en montagne.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Des sons lumineux pour éclairer vos nuits sur RTS Première.
C'est un moment où je me sens bien, où je suis un moment de partage un peu avec ma mère. On s'amuse, on rigole. On a le chien à côté qui se balade. Enfin, c'est des moments où on se focalise plus sur le chien. Et du coup, ça permet d'oublier un peu les soucis pendant un petit moment. C'est ma petite pause de la semaine.
Vacarme. Vacarme.
Tel maître, tel chien.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
Certains chiens ont des facultés étonnantes pour soigner l'âme et le corps. Une capacité à ressentir, à calmer, à apaiser. Pas étonnant donc que les hôpitaux fassent de plus en plus souvent appel à eux pour faciliter la guérison dans le cadre de dépression, de troubles anxieux ou de troubles de l'apprentissage par exemple. Ça s'appelle les TAA, thérapie assistée par animal. Dans le canton de Vaud, le CHUV vient d'introduire Jam, un chien thérapeute, au sein de l'unité ABC à l'hôpital de Saint-Loup. ABC, c'est le centre vaudois anorexie-boulimie. C'est là que sont hospitalisés des patientes et des patients qui souffrent de troubles sévères du comportement alimentaire. Ce jour-là, le groupe va se promener en forêt, accompagné par l'infirmière cadre Hélène Di Santos et la psychologue Mélanie Lanz.
On va carrément te caresser comme ça quand tu fais ça.
Allez, viens. Ouais, viens, viens, on y va. Allez.
Est-ce que quelqu'un a envie de tenir la laisse?
Venez. C'est OK.
Du flair pour guérir. Reportage Cécile During, Réalisation Rodolphe Beauchot.
Donc c'est une première.
Oui.
Très bien. Peut-être que les patients tiennent. On leur propose des fois de tenir la laisse quand on se déplace. C'est aussi une manière de commencer de créer le lien spécifique avec Jam. Ça renforce aussi des fois la confiance dans les paroles qu'elles vont pouvoir avoir plus tard. Jam, c'est un Golden Retriever de bientôt 3 ans, dans quelques semaines. Dans 2 semaines, en fait, pour être précise.
Et ça fait combien de temps qu'il est chien thérapeute ?
Il a été officiellement accrédité le 9 novembre 2024. Mais il a reçu, pour arriver à cette accréditation, toute une formation sur 15 mois à peu près, plus des mois avec moi pour que notre binôme soit formé aussi accrédité. Il est arrivé avec moi, chez moi, en septembre. Donc on a eu 3 mois de phase pilote, où il avait une chabraque jaune avec un L. Donc ça fait plusieurs mois maintenant qu'il fonctionne comme chien de thérapie clairement reconnu. Donc on est dans la forêt des Bois de Saint-Loup et puis le Nozon coule là. C'est vrai que c'est un cadre assez idyllique pour travailler en extérieur. On est à peu près à 3 minutes de marche de l'hôpital, donc on a beaucoup de chance en fait d'avoir cet environnement de travail.
Allez, tiens.
Je propose qu'on se mette en rond, comme ça on se voit toutes. On est un groupe exclusivement féminin aujourd'hui. Et Jam, viens. Jam, ok.
Ok, donc ce qu'on s'était dit en début de groupe, c'est qu'on essayait d'aller rechercher un petit souvenir d'un lieu, d'un moment où on a partagé un temps avec un animal.
Qui souhaite commencer ? Vous pouvez appeler Jam, qui vient près de vous, pour parler si c'est souhaitable. Il suffit que vous l'appeliez, puis il est à vos côtés pour pouvoir échanger.
Moi, comme souvenir, ça m'a refait penser à quand je m'occupais de 3 chevaux qui est à côté de chez moi. Et je m'étais particulièrement attachée à une vieille jument de 26 ans. Bah, maintenant que je suis ici, elle me manque beaucoup. Ça me fait tellement du bien quand je suis avec les chevaux ou même avec tous les animaux que j'ai chez moi que je me dis, bah, en fait, il faut que j'essaye d'avoir des congés le plus possible pour pouvoir les revoir.
Ça veut dire que vous nous dites, c'est que le lien, ces liens privilégiés avec les animaux que vous avez, ben, ça ne devient pas qu'un manque qui fait souffrir, mais que c'est un moteur. C'est un moteur aussi dans votre guérison, pour aller mieux, pour avoir des congés, mais pour sortir de l'hôpital, du coup.
C'est vrai que j'ai vraiment bien envie de les revoir tous. Donc je vais essayer de tout faire pour pouvoir les revoir. Il y a beaucoup d'émotions, parce que bah, c'était vraiment des bons moments. Donc.
C'est un moment aussi où ça fait remonter les émotions. Hein. C'est précisément un des objectifs du groupe, c'est que voilà, ça puisse être un espace où les émotions sont de nouveau présentes, et qu'on peut les accueillir, et qu'on peut les travailler ensemble. Là, vous avez des larmes. J'ai envie de dire c'est très bien, parce que vous nous faites part d'un souvenir et d'un lien qui est très puissant, qui est très fort. Et ben voilà, il y a de la tristesse, et puis, mais il y a en même temps de la motivation et de l'énergie. Ça vous donne de l'énergie aussi pour aller vers le mieux. Le fait de caresser Jam, parce que là il est vers vous, hein, et, alors il gratte un peu la terre avec sa truffe, mais vous le caressez, il n'a pas bougé. Qu'est-ce que ça vous fait? Le fait que vous puissiez dire tout ça en le caressant,
ça aide beaucoup, parce que bah, on peut le caresser et ouais, ça aide pas mal, je trouve.
En fait, j'avais un poney et je l'ai sauvé de la boucherie. Ouais, bah même genre parler de ses souvenirs comme ça dans les groupes, des fois c'est compliqué à gérer. Surtout que bah moi mon poney il est mort, donc c'est assez compliqué pour moi d'en parler, mais le fait que Jam est là, je trouve que c'est plus facile et que c'est possible, alors que s'il n'était pas là, je trouve que ce serait plus compliqué.
Peut-être c'est des fois un peu plus facile de parler du lien avec un animal que les liens aux humains qui sont autrement plus complexes, mais que ça aide probablement pour aborder cette thématique un peu plus, de manière un peu plus générale. Autrement dit, de comment on fait quand il y a quelqu'un qu'on aime qui disparaît, comment on s'accommode du manque, Comment est-ce que le manque peut à un moment donné devenir quand même un élément porteur, un souvenir qui nous tire en avant plutôt qu'il nous rend trop triste. Et il me semble que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est transposable à la thématique générale du lien et de l'attachement.
Bah, moi j'aimerais juste dire merci à Jam parce que avant de venir j'étais extrêmement angoissée et je me sentais vraiment pas bien et juste le voir ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et je me sens vraiment beaucoup mieux et donc bah merci à lui.
Et Jam vient vers vous spontanément, vous avez vu ?
Oui.
Pour aujourd'hui on s'arrête sur ça, on se revoit de toute façon la semaine prochaine dans le groupe de parole et puis ben voilà c'est bientôt l'heure du repas, du coup on va remonter gentiment, alors là il n'y a pas de consigne particulière, jusque dans l'unité. Merci à vous toutes.
Je m'appelle Chloé et j'ai 23 ans. Bah, moi, j'ai beaucoup d'anxiété et à chaque fois que je suis avec lui, je ressens. Enfin, c'est comme si ça disparaissait complètement. Le caresser, ça me permet de me focaliser sur lui et pas sur ce qui se passe en moi, sur mes émotions, tout ça, que j'ai de la peine à gérer. Et avec lui, bah, c'est comme si j'oubliais tout ça, en fait.
C'est assez magique.
Ouais, les animaux, ils ont ce pouvoir-là, je trouve. Ils ne parlent pas, mais ils nous comprennent d'une autre manière que les personnes qui nous entourent. On sort dehors, on voit un peu autre chose que l'hôpital. Ouais, c'est un temps qu'on prend pour nous et c'est très agréable.
Et comment il est, Jam ?
Bah, il est très affectueux, il est rassurant, il est doux. C'est un golden, il a le poil tout doré, un peu comme mon poney. Et il a un petit gilet quand il travaille. Il a des beaux yeux.
Vous le connaissez depuis combien de temps ?
Ça fait un peu plus de 2 mois que je suis ici.
Et donc il y a des vrais progrès ?
Oui, oui, complètement.
Okay. Alors je les détache, je laisse la laisse à l'extérieur. Et puis, comme on a fini de travailler, pour ce matin, je lui enlève la chabraque. Elle est dans le bureau. Maintenant, repos, loulou. C'est très bien, bravo. C'est fini, c'est repos.
Mélanie Lanz, vous êtes psychologue. C'est vous qui animiez là, tout à l'heure le groupe de parole. Qu'est-ce qu'il amène, ce chien ?
Énormément. Je dirais qu'il amène vraiment déjà la capacité de se sentir en confiance des patients. Ça réduit la barrière entre le monde des soignants et le monde des patients. Je pense que ça permet une horizontalité un peu plus importante. Donc ça permet d'emblée une confiance. La confiance suffisante pour oser dire des choses de soi. De par le fait qu'il soit doux, tendre, rassurant, il est comme ça un facilitateur, un reconnecteur des patientes avec ce qu'elles peuvent ressentir. Les patientes touchent Jam, donc il y a une sensorialité qui est retrouvée, le thérapeute ne touche pas les patients, donc il y a un contact physique, ça connecte avec des souvenirs, avec un ressenti, ça ancre aussi dans le corps.
Alors les chiens de thérapie, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais en quoi c'est très utile dans le cas de la maladie de l'anorexie ou de la boulimie.
Alors, les maladies des troubles de comportement alimentaire, anorexie, boulimie, il y a une déconnexion entre l'émotion et les pensées, entre les désirs et puis la réalité. Hein. Les patientes souvent disent qu'elles veulent vivre mais sans manger du tout, perçoivent plus leurs limites corporelles, sont des fois dans un déni absolu hein, de la gravité de leur situation. Et puis, ben, Jam, c'est comme si il permettait, on va dire comme ça, un réassemblage des pièces de puzzle, comme si tout d'un coup, ben, l'émotion puis la pensée va ensemble. Par exemple, on a des patientes qui, au début, nous disent que tout va bien, qu'elles ne voient pas ce qu'elles font là, puis qu'elles ne sont pas tellement en souffrance, hein, que finalement, leur poids leur convient, enfin, elles ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent plus aller à l'école ou au travail. Et on a un premier groupe, jamais là, on fait connaissance, ça se fait en douceur, hein, toujours. Mais tout d'un coup, il y a des larmes qui coulent, et puis des patients nous disent, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai jamais pleuré, ça fait un moment que je ne pleure plus, je ne sais pas ce qui me fait, je ne comprends pas. Et tout d'un coup, il y a un narratif qui arrive sur cette émotion. En fait, je suis très seule, en fait, je ne sais pas pourquoi je me suis murée dans cette chose-là. Donc ça reconnecte, il me semble que ça permet de
rassembler des pièces qui sont contenues à l'intérieur d'elles-mêmes de manière beaucoup plus rapide que ce que les interventions thérapeutiques seules permettent. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais ça facilite énormément et ça, c'est extrêmement impressionnant. J'avoue que moi, je suis surprise chaque semaine de voir l'effet qu'il produit. Ça dépasse de loin ce qu'on avait imaginé. Donc non seulement les patientes s'expriment davantage, mais elles parlent aussi beaucoup plus de ce qui les touche réellement, comme si la souffrance qu'il y avait en elles était beaucoup plus accessible. Et j'ai le sentiment très très fort que Jam, de par sa présence, le fait qu'il aille vers elle, c'est comme si les barrières tombaient. Donc comme si les mécanismes de défense, les résistances qui sont normalement là, la maladie du trouble du comportement alimentaire est faite de beaucoup de résistance et de mise à distance hein, du lien, du corps, de l'autre. C'est comme si ça tombait.
Mais ce chien, pour vous, est-ce qu'il sent vraiment quand les patientes sont mal ou qu'elles auraient besoin de parler?
Oui, je pense qu'il perçoit, il est très aux aguets et il perçoit l'émotion.
Vous pourriez faire sans aujourd'hui?
Sincèrement, non. Les collègues l'attendent. Donc, quand on arrive dans les couloirs, ah, Jam, on me dit bonjour en deuxième maintenant, mais ça maintenant c'est OK pour moi. C'est un co-thérapeute pour moi.
Et est-ce qu'il y a des patientes qui sont venues ici à Saint-Loup, à l'hôpital, et qui poursuivent au fond cette forme de thérapie à l'extérieur, chez elles ou d'une autre façon?
Parfois, certains me disent que ça donne très très envie d'avoir un animal de compagnie. Dans certaines situations, c'est pas possible parce que c'est pas facile d'avoir un chien, faut le dire, hein, ça c'est quand même du travail. Mais j'ai notamment une patiente qui s'est formée, qui a fait les cours de formation pour débutants pour pouvoir promener les chiens à la SPA. Ce qu'elle fait avec sa fille, on avait commencé par une séance conjointe mère-fille dans l'idée que Jam puisse faciliter la communication entre elles deux. Et puis ça a tellement été porteur qu'elles ont ces moments-là privilégiés les deux en baladant un chien à la SPA de temps en temps.
On vient d'arriver à Sainte-Catherine. Donc c'est la SPA et on voit plein de chiens. Donc il y a des grandes cages. Tiens, là il y en a deux qui sont magnifiques. Je m'appelle Marina Ador. Je suis atteinte d'anorexie boulimie depuis l'âge de mes 13 ans. Donc ça fait une quarantaine d'années maintenant. Je suis suivie aussi au CHUV, à l'ABC, par Madame Lanz. Nous, on vient avec ma fille pour faire des balades. On fait soit des balades de 30 minutes ou de 45 minutes. Ils vont nous amener un chien.
Est-ce que vous pouvez choisir le chien?
Non, on ne peut pas choisir. Ils nous amènent, c'est la surprise chaque fois, donc c'est ça qui est chouette aussi pour nous. Après, je les prends en photo, comme ça on a notre petite panoplie de tous les chiens qu'on a rencontrés. Et puis nous, on a plutôt des chats calmes, parce qu'il y a aussi chiens dynamiques. Donc ça va être certaines races qui demandent plus d'énergie. Comme on est un peu néophyte quand même, on a plutôt des chiens, des petits ou des calmes.
Alors on va aller voir quel chien vous attend.
Oui.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Et voici.
Salut, toi.
Je vous présente
salut.
Bruce.
Salut Bruce.
Oh, il est trop beau.
Il a
une année.
Une année, ouais. D'accord.
Tout frais.
On voit qu'il est tout jeune, tout agité.
Ouais.
Bon, bah alors on y va.
Merci, bonne balade.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Oh, t'es beau, Bruce.
Mais oui, chaque fois que je vois un chien, ça m'émeut. Ça... Je suis triste de me dire qu'il n'a plus de maître.
Tu peux me le décrire, Isalis?
Alors, il est de taille moyenne. Il est très agité, donc il court un peu partout. Je crois qu'il a vraiment envie de se balader. Voilà. Il est dans une couleur un peu beige. Et il a le museau noir. Avec des oreilles un peu beige noir.
Tu sais quelle race c'est?
Non, j'en ai aucune idée.
Alors, aucune idée. C'est la première fois qu'on a un chien aussi dynamique et jeune hein, aussi. Ouais. Là, on voit qu'il a envie de marcher. Et... Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est de les voir, on va dire... heureux de sortir, de pouvoir chaque fois voir un chien qui est différent. En tout cas, pour ma part, il y a l'empathie et l'envie de, ben voilà, de le rendre un petit peu heureux à un moment. Et puis, c'est ça aussi qu'on partage avec Isalis à ce moment-là.
Allez, Bruce, viens, hein, on y va.
On prend quel chemin?
Ben, on va aller un petit peu là.
Dans la forêt.
Bien, Isalis, quand on avait été dans la forêt, là, on s'était... enfoncé dans la gadoue. C'est pour ça que maintenant on met toujours des bottes parce que des fois ils nous emmènent dans des endroits un peu plus reculés.
Ouais.
Vous faites ces balades ensemble depuis quand?
Depuis en automne, je crois. Genre.
Ouais.
Genre vers octobre, il me semble.
On a fait en été la formation, parce qu'il y a une petite formation à faire d'une journée, autant pour les personnes qui veulent adopter un chien que pour les promenades. Et on a commencé par ça, puis après on a fait ponctuellement, ça dépend aussi ben voilà, des horaires d'Isalis.
À chaque fois, j'essaye un peu de regarder quand est-ce qu'on pouvait, une semaine à l'avance du coup, parce que sinon, il y avait toutes les places qui étaient prises. Dès que je pouvais, j'essayais de voir un peu les jours, ce que je faisais et du coup, où j'avais du temps libre. Là, on marche dans de la boue.
En fait, ça s'est tout fait un peu en même temps, parce qu'on a rencontré Jam à l'ABC.
En fait, c'est un chien de thérapie. On a déjà fait un peu des promenades avec à l'hôpital de Saint-Loup. C'est un chien qui est là pour que les choses soient plus faciles à expliquer, une présence un peu réconfortante. Jam, c'est plus pour parler, vraiment libérer ses émotions. Avec les chiens d'ici, c'est plus un moment... je sais pas trop en fait comment expliquer, mais c'est vraiment un moment où bah il y a juste le chien qui compte, et puis bah on est bien et bah on est juste content, voilà.
Jam, il est formé aussi, c'est vraiment un chien de thérapie, donc il sait où il va, il sent les choses, il est attentif à nous. Là, on est avec un chien, c'est l'inverse, c'est plus, chaotique, mais voilà, c'est ce côté plus drôle sur le moment, on est obligé de s'adapter, on peut parler, mais dans deux secondes, il sera peut-être loin, je dois couper la conversation. Il n'y a pas ce côté vraiment de parler de nos émotions, mais par contre de les vivre sur le moment.
Tu viens, on continue ?
Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Isalis, de faire ces promenades avec ta maman et un chien ?
C'est un moment où je me sens bien, où je suis un moment de partage un peu avec ma mère. On s'amuse, on rigole. On a le chien à côté qui se balade. Enfin, c'est des moments où on se focalise plus sur le chien. Et du coup, bah, ça permet d'oublier un peu les soucis pendant un petit moment. C'est ma petite pause de la semaine, où je prends du temps pour moi et puis je suis dans un endroit qui fait du bien, avec des gens qui font du bien, avec un chien qui fait du bien aussi.
Ah, mais t'es le premier qui a compris. Non, pas le micro. Ici.
Tu peux aller boire un petit peu d'eau?
Tu veux?
Non. T'es doux, dis donc. Oh, t'es trop chou.
Après, il faut le laisser. C'est ça l'embêtant.
On te prend avec nous.
Oui, c'est chaque
on
fois.
On te kidnappe.
Mais là, c'est mon coup de cœur. Hein. Il y en avait un ou deux, on se dit, ok, non, oh. Mais là, tout d'un coup, oh là là.
T'es trop chou avec tes c'est grands yeux. Ses oreilles, elles sont super douces.
Pour moi, ce projet, ça a été aussi important parce que je sortais d'une période qui n'était pas facile du point de vue maladie, puis ça... On s'était un peu éloigné, il y avait voilà quelques tensions et puis là je me sentais mieux et du coup de pouvoir j'allais dire accompagner Isalis dans cette envie là et puis de se retrouver, ça a été très important en tout cas pour moi, pour qu'elle ait de nouveau un peu confiance en moi. J'avais l'impression de pouvoir voilà réassumer certaines choses que pendant un moment j'arrivais pas, et puis de faire aussi quelque chose qui est assez léger. qui fait une petite parenthèse, comme tu l'as très bien dit, Isalis, pendant une demi-heure où on est ensemble, puis ça nous permet de, ouais, d'être liés sur le fait qu'on aime les animaux et qu'on aime les chiens. Et puis de repartager quelque chose avec Isalis après avoir eu un moment où ça allait très très mal pour ma santé, où ça a créé des conflits plus forts avec Isalis. Ben, c'était de lui dire, tu peux me refaire confiance sur certaines choses, on peut refaire des choses ensemble. Du coup, c'est notre petit moment, puis c'est un partage qu'on fait les deux.
Et comment c'est au niveau des tensions maintenant entre Isalis et vous?
Ça va beaucoup mieux. Pour expliquer, c'était des problèmes d'alcool pour moi, donc ça fausse un peu toutes les relations. Et pour Isalis, c'était très pénible. Donc maintenant que j'ai complètement réussi à m'en sortir, je sens qu'en tout cas le dialogue, la confiance, les partages sont plus simples et plus directs. Et aussi l'impression d'avoir repris mon rôle de maman, en fait. C'était un sacré combat pour moi et une réussite. Et ça m'a redonné confiance en moi. Et puis c'est vrai que cette aventure, au début moi j'étais là, je le fais plutôt pour Isalis, et puis au final j'y trouve vraiment bien mon compte.
Alors, je te pose la question, Isalis, toi tu sens que la relation elle a changé depuis que vous faites ces balades avec le chien?
Oui, elle a changé. Déjà du coup elle a arrêté de boire, on se parle plus, on se dit plus les choses. Alors parfois on peut s'énerver sur des sujets, mais enfin c'est rien de grave, on rigole dessus. C'est vraiment un bon moment et du coup, ça change beaucoup les choses.
T'as raison d'avoir retrouvé ta maman?
Oui. Là, j'ai 12 ans, je suis plus grande. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Oui, du coup, c'est beaucoup plus facile.
Vacarme.
Et avec toutes les thérapies, les chiens, les balades, tout, ça a fait qu'on a renoué un peu le lien.
Qu'avez-vous pensé de ce reportage intitulé « Du flair pour guérir » et signé Cécile During? Avez-vous été aidé par un animal dans des moments délicats? Dites-le nous au 058 134 134 0. Qu'est-ce que la présence d'un chien vous apporte du côté relationnel avec vos proches, du côté de votre santé physique ou mentale? Notre numéro, c'est le 058 134 134 0.
Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Valérie Dantan et Stéphanie Coudray.
Demain, nous allons monter sur l'estrade d'un concours canin.
Ruby a fait beaucoup d'expositions. Il était champion du Luxembourg, champion de Slovénie, champion de Croatie, etc. Je ne sais pas tout. Et puis en Suisse aussi, il a des titres de champion. Sinon, on ne gagne rien d'autre que la gloire, si j'ose dire.
Le cabot de la gloire, ce sera le reportage de demain. Et si vous êtes très pressé d'aller l'écouter, rendez-vous sur le Play RTS. Vous trouvez d'ores et déjà tous les reportages de la semaine.
Et la légèreté du vent, le cœur en suspens, j'hésite et j'attends, en effleurant le temps, en effleurant la vie, j'en tremble et j'ai envie de connaître cette folie, de donner la vie. Mon amour, mon enfant, viens, je t'attends. Mon amour, mon enfant, viens, je t'attends. Entre la lourdeur du temps et la légèreté du vent, le cœur en suspens. J'hésite et j'attends, en effleurant le temps, en effleurant la mer, la lune s'y décide. Tu es au ciel, dans mon corps, merveille, mon amour, mon enfant. Viens, je t'attends, mon amour, mon enfant. Viens, je t'attends.
Du son, de la radio, la nuit, sur RTS Première. Du 12 au 22 juin, Lausanne accueille le plus grand événement sportif de Suisse, la 77e fête fédérale de gymnastique.
Lausanne, 35,000 athletes from all over Switzerland meet for their gymnastics festival.
Un moment historique et festif où 65 000 gymnastes feront briller l'âme du sport. Spectateurs ou volontaires, rejoignez le mouvement, vivez l'émotion et découvrez la capitale olympique autrement. Plus d'informations sur lausanne2025.ch. La fête fédérale de gymnastique, c'est en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS. Tribu, Jérôme Timmerman.
Qui sont les personnes trans? Est-ce que les représentations qu'on voit dans l'espace médiatique, dans les fictions, correspondent à la réalité? Est-ce que ce qu'on pense de cette catégorie de population, ce qu'on pense savoir, correspond réellement à leur vie? Et d'ailleurs, est-ce que les parcours et trajectoires des personnes trans se ressemblent? Eh bien, voici une partie des questions qu'on va se poser ce matin en compagnie d'Emmanuel Bobatti. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Tribu. Emmanuel Bobatti, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur de Transfuge de sexe, passer les frontières du genre aux éditions La Découverte. Un livre dont on va en introduction évoquer le contexte. Hein. C'est une enquête sociologique entamée déjà en 2001. Vous avez publié ensuite sur cette base un livre en 2011. Ce livre a été réédité l'an dernier. Vous expliquez bien sûr que 2001-2024, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La question de la transidentité a énormément évolué et occupé la scène médiatique entre-temps.
Oui, tout à fait. Le contexte a beaucoup changé. Alors, c'était pas 2001, c'était 2011. Donc, c'est quand même un peu plus récent.
Autant pour moi.
Effectivement, non, non, aucun problème. Mais du coup, bon, effectivement, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. Et entre-temps, le contexte déjà législatif a changé hein, pour les personnes trans. Leurs droits ont changé, notamment le changement d'état civil est désormais facilité hein, par rapport à ce qui se passait à l'époque. Et surtout, la visibilité médiatique a énormément changé. Les personnes trans jeunes aujourd'hui ont accès à des ressources que leurs aînés n'avaient pas à l'époque. Et ça change beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes très jeunes m'ont fait ce retour-là en me disant que le livre était un petit peu daté. Et j'en conviens. Mais la temporalité de la recherche est celle-là. Et souvent, on publie bien plus tard que notre enquête. Donc, c'est comme ça.
Un point de vocabulaire, à une époque on parlait plutôt de transsexuel, on a aussi utilisé le terme transgenre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un terme, des termes appropriés et d'autres qui ne le sont pas?
Alors ça dépend en fait de à qui on pose la question. Il y a différents termes qui sont utilisés dans la population trans et dans la littérature scientifique. Moi, le choix que j'ai fait personnellement, c'est d'utiliser le simple préfixe de trans qui permet justement de ne pas forcément s'engager dans les débats entre les catégories médicales et les catégories plutôt nées dans le monde militant. Voilà, donc c'est le choix que j'ai fait pour essayer d'inclure le plus de parcours possible, des parcours très diversifié parmi la population trans.
Alors, parcours très diversifié, on va justement y revenir, mais juste avant, le titre du livre, Transfuge de sexe, le terme transfuge choisi parce qu'il évoque le même déracinement qu'une personne exilée. Ça, c'est la réalité racontée par les personnes que vous interrogez.
Oui, tout à fait. En fait, c'est pas quelque chose qui est formulé par les personnes elles-mêmes. C'est moi qui le dis comme ça parce que moi, je viens de la sociologie et en sociologie, c'est vrai qu'on a une littérature importante sur les mobilités sociales de classe. Mais finalement, je me suis rendu compte que les parcours trans n'étaient jamais analysés sous ce prisme-là, alors même que dans les récits des personnes trans, moi j'ai retrouvé énormément de choses qu'on trouve dans les récits de transfuges de classe. Et c'est pour ça que j'ai voulu mobiliser ce terme, du coup, qui vient de la sociologie, pour dans le champ des études sur le genre et pour analyser les parcours trans. En fait, ce qui est important de dire, c'est que les parcours trans, ils sont souvent étudiés sous l'angle du passing. Le passing, c'est un terme qui vient du fait de passer pour blanc ou de se faire passer pour blanc dans un contexte de ségrégation raciale. Et ce terme a été ensuite utilisé scientifiquement et aussi dans le langage courant pour les trans. Or, c'est un terme qui peut être un petit peu essentialiste. Si, par définition, on passe pour quelque chose, c'est implicitement qu'on ne l'est pas, du moins pas authentiquement. Hein, bon. Donc, j'ai préféré, voilà, même si le passing est utile pour décrire certaines stratégies dans l'interaction sociale, j'ai préféré privilégier le terme de transfuge pour montrer que c'est une mobilité sociale et pas juste une forme de passing.
Emmanuel Bobatti, donc vous soulignez un point très important en particulier, vous l'évoquiez juste auparavant, c'est que les parcours des trans ne se ressemblent pas du tout. Donc vous insistez, il y a une grande diversité dans leur parcours.
Exactement, moi c'était mon enjeu et c'était un enjeu qui venait de mon ancrage théorique. Hein. Bon, je travaille beaucoup avec les études féministes et voilà, ça fait un certain temps que des études féministes ont pointé que toutes les femmes ne se ressemblent pas, que toutes les femmes ne vivent pas la même expérience de la domination masculine, qu'il y a voilà des appartenances de classe, de race qui vont et de sexualité qui vont structurer cette expérience qu'elles font de la domination de genre, et ben c'est un petit peu la même chose pour les personnes trans. Hein, voilà, donc c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas du tout la même expérience de la transition, de l'oppression en tant que personne trans, du stigmate, des discriminations, des violences, et qu'il y a une diversité de parcours et d'expériences de la transition.
Alors, vous avez mené des entretiens avec une trentaine de personnes pour cette enquête. Je précise aussi qu'il y a une enquête quantitative en parallèle. Et donc, les trans ne sont pas égaux face à la transition, c'est ce que vous venez de me dire. Bah, dans quelle mesure, justement, est-ce que vous pouvez donner peut-être des exemples?
Oui, bien sûr. Alors, lié à différents facteurs, hein, ces différences. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette recherche-là, c'est l'impact notamment du genre lui-même, c'est-à-dire de est-ce que les personnes ont été assignées initialement au féminin ou au masculin et vers quel genre elles se dirigent ensuite. Et ça, on remarque que ça ne donne pas du tout les mêmes trajectoires. Par exemple, moi, j'ai observé que la moyenne d'âge à la transition, en début de transition, était beaucoup plus élevé chez les femmes trans, qui sont donc des femmes qui ont été assignées garçons à la naissance et qui sont devenus des femmes. Leur moyenne d'âge à la transition est beaucoup plus élevée que celle des hommes trans, hein, qui transitionnent davantage dans la jeunesse. Et ça, c'est lié notamment au fait qu'il y a une tolérance asymétrique, hein, finalement, du passage de la frontière du genre, puisque les femmes trans, en début de transition, vont être extrêmement exposées à des violences, à des discriminations, à des formes de précarisation, aussi des ruptures familiales lorsqu'elles sont jeunes, hein, et à l'incapacité à trouver un emploi à ce moment-là aussi, davantage que les hommes trans qui vont au début être perçus comme des garçons manqués, donc les gens ne s'inquiètent pas trop, et puis ensuite par contre ça devient un petit peu plus compliqué, mais en tout cas il n'y a pas une sanction immédiate socialement, voilà. Donc de ce fait, beaucoup de femmes trans attendent un âge avancé pour s'autoriser à transitionner. Généralement, elles sont déjà en emploi stable, du coup à ce moment-là, elles ont déjà fondé une famille pour la plupart d'entre elles. Les hommes trans, par contre, forment un groupe beaucoup plus homogène, puisqu'ils transitionnent, pas tous, mais en tout cas pour l'immense majorité d'entre eux dans la jeunesse, alors que la moitié des femmes trans attendent à peu près la cinquantaine pour transitionner.
Alors, des disparités que vous évoquez, mais il y a une étape clé, vous écrivez que les vies des trans sont suspendues à des verdicts et des diagnostics. Donc ça, c'est un point commun pour toutes les catégories incluses dans ce groupe trans.
Absolument. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passage de la frontière du genre ne se fait pas juste sur la base du volontariat. On ne change pas de genre comme on change de vêtements, d'un jour sur l'autre. C'est quelque chose qui est très fortement régulé par l'État et par les catégories administratives qu'on connaît, dont les catégories de sexe, qui n'ont pas toujours figuré à l'état civil d'ailleurs. C'est récent dans l'histoire, mais en tout cas, maintenant elles y figurent. Et donc, il faut en passer passer par une série de contraintes, voilà, institutionnelles, administratives, pour pouvoir être reconnu par l'État. Et être reconnu, c'est fondamental pour pouvoir survivre, hein, voilà, dans le monde social dans lequel on vit. Et donc, ça se présente à deux niveaux. Au niveau médical, d'abord, pour les personnes qui souhaitent médicaliser leur transition, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a différentes modalités de médicalisation. Et pour ça, jusqu'à très récemment, il fallait, donc jusqu'à il y a deux ans plus précisément, il fallait nécessairement l'accord d'un ou d'une psychiatre, hein, pour pouvoir entamer une transition médicale. Et ce suivi psychiatrique pouvait durer plus ou moins longtemps, très longtemps, parfois, lorsque les personnes passaient par le public pour pouvoir être remboursées. Voilà, une autre étape de la transition, qui là encore n'est pas du tout investie par toutes les personnes trans, c'est le changement de sexe à l'état civil. Et là, il faut toujours, à l'heure qu'il est, en France en tout cas, en passer par le tribunal. C'est-à-dire que ça se passe au tribunal, hein, le changement d'état civil, ça ne se fait pas en mairie. Seul le changement de prénom peut se faire en mairie. Et pour ça, eh bien, il faut fournir au juge ou à la juge tout un dossier de preuve que l'on vit bien dans la catégorie de sexe que l'on demande à rejoindre. Ce qui est un petit peu paradoxal, puisque tant qu'on n'a pas changé de sexe à l'état civil, bah, on ne peut pas avoir des factures à son vrai nom, on ne peut pas travailler dans la bonne catégorie de genre, etc. etc. Donc il y a un peu un mécanisme de double contrainte, hein, dans ces demandes-là.
Emmanuel Bobaty, dans Transfuge de sexe, vous racontez également comment la question trans a été étudiée par les sciences sociales. Au début, on décrivait le phénomène peut-être un peu trop à l'emporte-pièce. Vous faites un parallèle, vous l'avez d'ailleurs expliqué lors d'une précédente réponse, parallèle entre l'étude des genres et, on s'entend, le développement de l'étude des classes sociales. Vous expliquez aussi comment le corps médical a créé des protocoles parfois controversés pour pouvoir bénéficier d'un traitement médical. On apprend que les premiers traitements hormonochirurgicaux date de 1920, donc plus d'un siècle déjà, avec à cette époque quand même plus de visibilité pour les hommes trans que pour les femmes trans. Et puis le champ psychologique, alors vous en parliez juste à l'instant, qui intervient pour sa part plutôt dans les années 1950, à ce que vous écrivez. Il y avait évidemment des observations auparavant. On commence à instaurer un protocole psychiatrique et les psychiatres vraiment deviennent à ce moment le symbole de l'accès aux traitements hormono-chirurgicaux. C'est la porte d'entrée obligatoire, si j'en reste à cette suspension des verdicts et des diagnostics.
Oui, absolument. En fait, c'est ce protocole qui existe toujours aujourd'hui, même s'il se transforme très rapidement à l'heure actuelle. Eh bien, c'est le résultat de décennies, hein, de controverses scientifiques, et notamment des controverses scientifiques entre des endocrinologues, des sexologues et des psychiatres à partir de la moitié du siècle dernier. Et les psychiatres, en fait, se sont avérés plus puissants, finalement, dans le champ, avec plus de pouvoir, en fait, hein, sur les enjeux liés aux transitions. Et d'une certaine manière, il a bien fallu trouver un compromis, parce que de toute façon, des personnes trans contournaient le diagnostic psychiatrique, hein. C'est comme ça que, justement, les trans ont pu avoir accès à des protocoles médicalisés, parce que évidemment, ils trouvaient des moyens pour contourner ce diagnostic, parce qu'au départ, dans le champ psychiatrique, l'enjeu, c'était juste de traiter les trans par psychothérapie. Hein. Donc, un compromis a été trouvé, mais les psys ont, dans les années 60, un peu imposé finalement cette mainmise, hein, sur l'accès à la médicalisation, c'est-à-dire qu'il a fallu en passer par un diagnostic psychiatrique, et ça, dans beaucoup de pays du Nord occidentaux. Hein. C'est pas du tout valable à l'échelle du monde entier, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé en France avec un protocole qui a été mis en place dans les années 80 et qui a donné l'accès à des ressources médicales.
Vous écoutez Tribu sur RTS Première. Emmanuel Bobaty, vous êtes notre invité jusqu'à 11h30, auteur de Transfuge de sexe, Passer les frontières du genre aux éditions La Découverte. Eh bien, je vous propose d'illustrer ce thème en musique avec l'artiste Elie Zoé, la chanson Change My Name, qui évoque justement son changement d'identité après une transition.
Change my name, make some hopes in my brain to see the light. Stabilize, take a look through my things and figure me out. Change my name.
change my face. The disorder created calls me now. Emphasize all the features in me that figure me out.
À 11h20, on est de retour dans Tribu sur RTS Première avec Emmanuel Bobatti, sociologue et auteur de Transfuge de sexe, Passer les frontières du genre aux éditions La Découverte. On vient d'écouter cette chanson Change My Name, chanson d'Élie Zoé, une proposition de notre programmateur musical Bastien Arnold. Donc une chanson qui permet à l'artiste de prendre congé de sa précédente identité d'artiste public. Il nous dit « J'ai aussi peur que vous de perdre ma peau, perdre mes amis, mes parents aussi, peu importe comment je les ai choisis ou pourquoi ils m'ont choisi. » Bon, c'est une chanson qui est une bonne illustration de passer la frontière du genre, justement, tout réapprendre, sa voix, son reflet, ses rapports avec tout l'entourage, son intimité, Emmanuel Bobatti.
Oui, alors je découvre cette chanson, merci pour cette découverte. Alors je dirais que oui, c'est en partie une bonne illustration parce que de fait, au cours d'une trajectoire de mobilité sociale, quelle qu'elle soit, en l'occurrence une mobilité de genre, il y a des nouvelles socialisations, des nouveaux apprentissages qui sont à l'œuvre, mais ça ne veut pas dire que les individus se défont complètement de leur passé. Et ça, c'est très important de le dire, hein, parce qu'on l'observe dans toute trajectoire de transfuge, que ce soit dans des trajectoires d'ascension ou de déclassement, c'est qu'il y a des habitus, comme on dit en sociologie, des manières d'être, d'agir, de penser qui vont rester, qui font partie de nous, hein, dans toute trajectoire de mobilité sociale. Et les personnes ne vont pas se reformater complètement avec une transition de genre, bien évidemment. Hein. Bon. C'est-à-dire que, moi, de ce que j'ai pu observer, notamment dans les entretiens, hein, puisque je faisais des biographies, je parlais de toute la vie, on remontait très loin dans les existences des personnes, eh bien, on remarque que des choses restent du passé. Les trajectoires des personnes trans ne sont pas comparables à celles des trajectoires des personnes qui ont des trajectoires cisgenres, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas trans, notamment dans le rapport au travail, à la sexualité, à la famille. Des choses restent ensuite et des choses changent également.
Dans un témoignage qu'on peut lire dans votre livre, il y a la discrimination notamment administrative, par exemple des personnes qui témoignent qu'on les appelle toujours monsieur alors qu'elles précisent que c'est madame. Là aussi, ces résistances en fait auxquelles elles sont confrontées vient également illustrer ce passage de la frontière du genre qui n'est pas accepté.
Eh bien, ça, c'est une analyse que j'ai essayé de mener à différents niveaux, c'est-à-dire que il y a un niveau un peu structurel, de la mobilité sociale qui se déploie au cours de la vie, mais il y a aussi dans les interactions au quotidien des choses qui se passent et notamment en début de transition, des phénomènes qu'on qualifie souvent de réassignation. Hein, les personnes se trouvent réassignées à leur catégorie de sexe d'origine, comme chez les transfuges de classe, on peut être réassigné à ses origines, et c'est évidemment une expérience qui peut être très, très désagréable et très humiliante aussi parfois dans certaines circonstances. Donc ça fait partie effectivement des mécanismes de discrimination à l'œuvre.
D'ailleurs, à ce propos, si on parle de la représentation de la transidentité dans les médias, souvent les médias renvoient comme repère à la précédente identité des personnes concernées. On rappelle donc sans cesse qu'il était auparavant elle, qu'elle était auparavant il. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé par les personnes que vous avez sondées pendant votre enquête, perçue comme une forme d'attaque, de négation on ne sait pas si c'est volontaire, si c'est une forme de maladresse aussi, quand il y a ces formules dans les médias d'ailleurs.
Alors, c'est l'époque à laquelle j'ai enquêté était beaucoup moins, c'est une époque pendant laquelle la médiatisation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bon. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas spécifiquement abordé. Moi, je me concentrais vraiment sur les vies quotidiennes des personnes, sur leur propre trajectoire. Après, je voyais dans certains entretiens l'impact des médias, de la culture populaire, etc., des représentations. Et effectivement, certaines personnes en parlaient, mais plutôt des jeunes. Et en effet, même si c'est pas quelque chose que j'ai investigué, c'est quelque chose qui est très largement critiqué, en effet, par les personnes et par les mobilisations trans. Cette idée de rappeler constamment un individu à ses origines s'il ne le fait pas de lui-même. Donc voilà, il y a une sorte de consensus autour de ça, je dirais.
En parlant d'identité, Emmanuel Bobatti, il y a eu aussi toutes les autres figures de genre observées, les nuances queer. Il y a un lien, l'émergence de catégories de gens qui ne se reconnaissent pas dans le genre attribué à la naissance. Donc il y a une pertinence à comparer toutes ces catégories-là.
Bien sûr, moi pendant cette recherche justement, on a vu se développer en France le mouvement des personnes qui se disent souvent non-binaires. Non-binaire, ça veut dire non à la binarité de genre, donc des personnes qui souvent ne se reconnaissent ni comme homme ni comme femme, mais qui de fait vivent une forme de mobilité de genre. Ce qui est important de dire, c'est que les mobilités sociales, quelles qu'elles soient, sont à géométrie variable. Hein. C'est pas juste un passage d'un point A à un point B, c'est pas juste des mobilités spectaculaires dans un sens ou dans l'autre. Il y a beaucoup de directions possibles, il y a tout un espace social du genre qui est très complexe, hein, c'est comme les classes sociales, il n'y a pas juste des bourgeois et des prolétaires, il y a beaucoup, beaucoup de classes et de fractions de classes. Donc c'est un peu le même système, c'est-à-dire que dans la pratique, moi j'ai rencontré des gens qui s'identifiaient de plein de manières différentes. Alors ça pouvait être homme ou femme, mais ça pouvait être non-binaire, agenre, gender fluide, etc., beaucoup de termes différents. Il y avait aussi des pratiques très différentes. C'est pas juste une question d'identité. Ça, c'était quelque chose de très important que je voulais mettre en avant dans cette recherche. C'était que c'est aussi une question de pratique, tout ça. C'est-à-dire que les personnes ont plus ou moins recours à des procédures médicales dans leur transition, transforment plus ou moins leur corps, ont plus ou moins recours au changement d'état civil, sont plus ou moins à l'aise avec la visibilité en tant que trans, s'habillent de plein de manières différentes. Il y a plein de manières, finalement, de vivre son genre au quotidien, de l'exprimer, de le vivre concrètement dans son quotidien. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment montrer, que c'est pas quelque chose de binaire, en fait, le genre. On a tendance à le naturaliser, il y a les hommes, il y a les femmes, etc. Mais dans le monde social, on voit bien, au-delà des personnes trans, que tous les hommes ne se ressemblent pas, toutes les femmes ne se ressemblent pas, c'est une évidence. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer vraiment avec les personnes trans. Et c'est un terrain qui permet aussi d'envisager que le genre peut être pensé sociologiquement, mais aussi plus généralement dans les représentations, au-delà de la binarité.
Et constat, quand on passe les frontières du genre, qu'on découvre également dans votre livre, pour illustrer ce dont on parlait au niveau du changement de statut social, c'est raconté avec une pointe d'humour. Daniel qui explique, je cite, « Le truc qui me frappe, ce sont les personnes qui font des transitions un peu tardives et qui s'étonnent. Ah tiens, on m'a diminué mon salaire par deux. Ben oui, c'est que tu es une vraie femme. » Un dialogue qui provoque quelques rires. Dans le même sens, dans le même ordre d'idées, Nathalie qui raconte aussi comment elle se fait harceler sur un banc quand elle lit un livre par des hommes. Donc il y a tous ces éléments qui viennent vraiment rendre concret cette. On peut comprendre, être dans leur esprit, ce qu'elles peuvent vivre vraiment dans des situations quotidiennes.
C'est le propre des trajectoires de mobilité, c'est-à-dire que une mobilité sociale, un passage de frontières sociales, c'est toujours un révélateur très très puissant des privilèges qui ont été gagnés ou de ceux qui ont été perdus. Donc les personnes trans finalement sont les seules à avoir vu le monde des deux côtés de la frontière du genre, même si elle n'est pas au même endroit pour tout le monde cette frontière. Mais en tout cas, ça permet d'avoir cette double vision, cette double conscience de ce qui se passe d'un côté et de l'autre dans une seule et même vie. Donc voilà. C'était important de dire aussi pour moi, je voulais vraiment analyser les parcours trans au prisme du genre, parce qu'on a tendance, enfin voilà, y compris dans un certain nombre de médias, à voir des représentations des trans comme étant un peu hors de l'ordre du genre, comme si, voilà, parce qu'on changeait de genre, on ne serait plus soumis aux mécanismes de domination, de rapport de genre, de rapport de domination et de pouvoir, alors même que c'est des rapports sociaux qui s'exercent très fortement sur les trajectoires trans, et justement, qu'on parle l'avant et l'après permet de l'observer de manière assez heuristique.
Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Emmanuel Bobaty, je rappelle ce livre dont vous êtes l'auteur, Transfuge de sexe, passer les frontières du genre, aux éditions de La Découverte. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous.
Tribu, Jérôme Timmerman.
Say hello. Like a wild and silver sea, a black captain's dancing night. Sure.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 1h.